Saint Antoine de Padoue, le saint de tout le monde. Antoine, dit de Padoue, naquit selon la tradition à Lisbonne en 1195. Le lendemain, il fut baptisé à la cathédrale et reçut le nom de Fernand. Martin et Maria, ses parents, sont profondément croyants. Lorsque Fernand atteint l'âge de 8 ans, il le confie à l'école cathédrale toute proche pour y apprendre la grammaire, la logique, le chant, le calcul et l'initier au chant et à la liturgie. Il déçoit assez vite les vues ambitieuses de ses parents. Dieu lui faisait signe et lui était content de répondre. À 15 ans, Fernand choisit de se retirer chez les chanoines réguliers de Saint-Augustin, dans le monastère de Saint-Vincent, sur la colline qui domine le Tage. À ces religieux, il doit sa formation intellectuelle qui le met à la hauteur des ecclésiastiques les plus cultivés de l'Europe au début du XIIIe siècle. Le style de vie du monastère de Saint-Vincent convient bien au jeune Fernand. La prière, la lecture spirituelle et le travail sont, selon ses maîtres, les trois armes par lesquelles le démon est vaincu. Mais le monde qu'il a si brusquement laissé revient à la charge et rôde autour du couvent. Parents et amis l'assaillent pour le distraire, pour le tenter. Il décide donc de quitter le monastère de Lisbonne pour se retirer dans celui de Sainte-Croix de Coimbray, appartenant au même chanoine de Saint-Augustin. Nous sommes en 1212. Un de ceux qui racontèrent sa vie résume ainsi le travail de ces 8 années. Il cultivait son intelligence par des études intenses, exerçait son esprit par la méditation. Il approfondissait avec grande curiosité le sens caché des paroles divines. Tout ce qu'il lisait, il le confiait à une mémoire si tenace qu'en peu de temps, il fit voir une connaissance de la Bible telle que jamais personne ne l'aurait espérée. La vie des chanoines réguliers est loin de combler son esprit. L'étude ne débouche pas sur la mission. Et puis, il y a trop de divisions dans les monastères, trop de disputes internes. On en vient à oublier la règle suprême, l'évangile de Jésus-Christ. Cette règle, Antoine va la découvrir chez des frères franciscains venus d'Italie. Au mois de février 1220, le bruit courut à Coimbray qu'au Maroc avaient été sauvagement martyrisés 5 missionnaires franciscains. Fernand établit alors une comparaison entre la médiocrité de sa vie, l'atmosphère de l'abbaye. Ces religieux frappèrent un jour à l'abbaye pour demander l'aumône. Fernand profita de ce face-à-face pour leur présenter son intention. Il aurait laissé les chanoines de Saint-Augustin pour se joindre à eux, à l'ordre des franciscains, afin de partir aussitôt au Maroc où il espérait pouvoir lui aussi verser son sang en témoignage du Christ. Il obtint avec beaucoup de difficultés l'autorisation. Pour couper tout lien avec sa vie précédente, il changea son nom avec celui d'Antoine. Parti à l'automne 1220, Antoine et son compagnon arrivent au Maroc vers l'hiver. Mais en raison de sa santé fragile, il tombe malade et doit rebrousser chemin. Durant la traversée, le bateau est poussé par les vents contraires vers les lointaines côtes de la Sicile. D'ici, Antoine, malade en son corps et en proie à une grave crise dans son esprit, s'achemine vers Assise, où il rencontre François en la Pentecôte de 1221. La sainteté du Poverello eut une grande influence sur l'inconnu disciple et Antoine sortit de cette rencontre plus paisible et mieux éclairé. D'Assise, il fut destiné à Romagne, à l'ermitage de Monte Paolo, près de Forlì. Et pourquoi faire ? Pour devenir l'homme qui parle face à face avec le Seigneur, pour devenir un saint de Dieu. Avant de l'envoyer prêcher aux autres, le Seigneur décida qu'il se convertît lui-même jusqu'au plus intime. Toute la vie n'est rien sans la sainteté, ou du moins sans l'ardent désir de la poursuivre. Et un jour, on invita notre ermite à descendre à la ville pour assister à la cérémonie d'une ordination sacerdotale. Le prédicateur n'y est pas autour d'un moment, et Antoine est prié de dire quelques pensées au nouveau prêtre. C'est la révélation de son talent, de son don pour la prédication. À partir de ce jour, il est envoyé sur les routes de l'Italie et de France annoncer aux chrétiens la bonne nouvelle de l'Évangile. Antoine est bien armé de sa solide culture théologique et de sa bonté inlassable pour lutter contre les attaques que subit la chrétienté. Il savait répondre aux affirmations des hérétiques. Sa parole et sa doctrine plantèrent des racines si profondes qu'une foule de croyants se rapprocha du Seigneur. Des hommes de toutes conditions, classes et âges se réjouissaient d'avoir reçu de lui des enseignements appropriés à leur vie. De cette époque date, selon la tradition, le célèbre sermon aux poissons, de celui au temps célèbre de saint François aux oiseaux. Au-delà de la légende, il est important d'en souligner la signification. Les créatures écoutent avidement la parole de Dieu que les hommes refusent d'entendre. Vers la fin de 1223, François confie à frère Antoine la mission d'enseigner la théologie aux frères. Antoine fut le fondateur des études de théologie dans l'ordre. Il enseigna à Bologne, à Montpellier, à Toulouse, à Padoue. Pour avoir une idée approximative des journées de saint Antoine, occupées jusqu'à l'invraisemblable, il nous suffit de lire les paroles d'un de ses contemporains. Pris par la prédication, l'enseignement, les confessions, il lui arrivait souvent de parvenir à la fin de la journée sans avoir eu la possibilité de prendre quoi que ce soit. Vers le début de 1227, Antoine rentre en Italie, par Arles et la Provence, pour se rendre à Assise, où il reçoit la charge de supérieur de toute l'Italie du Nord. De 1227 à 1230, il aura l'occasion de se rendre à Padoue, où il sera adopté par la population. Pendant l'été 1230, il reçoit mission des supérieurs de se rendre auprès du pape Grégoire IX avec une délégation de 8 frères pour lui demander de trancher un débat ouvert à l'intérieur de la famille franciscaine concernant la pratique de la pauvreté. Cette présence d'Antoine dans ce groupe, reçu par le pape, témoigne de la confiance que l'ordre tout entier mettait en sa personne. Antoine était un médiateur de justice. En ces temps de naissance de la bourgeoisie, le prêt à intérêt était pratiqué au-delà de toute mesure, et les débiteurs qui se trouvaient dans l'impossibilité de payer leurs dettes étaient dépossédés de leurs biens et jetés en prison avec toute leur famille. Une telle injustice était intolérable pour Antoine, qui demanda et obtint de la municipalité un décret selon lequel personne ne devait être détenu en prison s'il n'était reconnu coupable de dettes en argent contractées de mauvaise foi. Du Saint-Février jusqu'à Pâques 1231, Antoine prêche le premier carême de l'histoire. Il parle dans les différentes églises de la ville et en plein air. La foule atteint parfois 30 000 personnes. Cette activité, à laquelle s'ajoutent les confessions, les conférences aux étudiants et de nombreuses rencontres personnelles, finit par l'épuiser. En même temps, ce carême explique son succès et la naissance de la vénération dont il est encore aujourd'hui l'objet. Épuisé par les fatigues et par l'hydropisie, Antoine sentait s'approcher le moment du départ. Avant de se présenter au Seigneur, il entendait se purifier par la prière et la souffrance des tâches de la faiblesse humaine. Il lui fut accordé de se rendre à Campo San Piero, près de Padoue, dans l'ermitage que le comte Tiso avait donné aux franciscains, près de son château. Au cours d'une promenade dans le bois, Antoine remarqua un robuste noyer. Il demanda de lui monter là-haut, entre ses solides branches, une petite hutte. Tiso lui-même mena à bonne fin cette œuvre. Là-haut, notre saint passait dans la contemplation ses journées. Le soir, il rentrait à l'ermitage. À la tombée de la nuit, le comte allait rendre visite à son ami et un soir, de la porte entrouverte, il vit sortir une intense clarté. Craignant un incendie, il poussa la porte et il resta immobile devant la scène prodigieuse qui se présentait à ses yeux. Antoine serrait entre ses bras l'enfant Jésus. Quand il revint de son extase et qu'il vit son ami Tiso tout ému, notre saint lui demanda de ne pas publier cette apparition céleste. Après la mort du saint, seulement alors, le comte dévoila ce qu'il avait vu. Et le moment s'approchait pour lui, attendu et accueilli avec foi, l'heure du départ de ce monde vers le Père. Un vendredi, le 13 juin 1231, à midi, Antoine descendit de sa cellule perchée aux branches du noyer. Il venait de s'asseoir à table. Une attaque du mal le priva de toutes ses forces. Avec un fil de voix, il pria les frères de le porter à Padoue. Il aimait mourir dans son gracieux couvent, près de sa chère chapelle de Sainte-Marie. Un paysan attela les bœufs au char de campagne et on y étendit notre saint. Cet équipement, peu confortable, se mit en mouvement très lentement, suivi du frère Luc, le compagnon inséparable de Saint-Antoine. À la tombée du jour, on était aux portes de Padoue. Le malade aussi était à toute extrémité, et ses confrères le prièrent de s'arrêter à l'Arcella, dans la maison des aumôniers du monastère des Clarisses. Ici, dans une modeste cellule, notre saint est allé à la rencontre du Seigneur. Usé, mais gardant sa lucidité, sollicita le sacrement de la réconciliation, la Sainte Eucharistie et le sacrement des malades. « Après, avec le dernier souffle de sa voix, il entonna l'hymne à la Vierge. Ô reine glorieuse, exaltée plus haut que les étoiles, les yeux fixes, le saint regardait devant soi. Que voyez-vous, père ? L'interrogea Luc. Je vois mon Seigneur, articula avec difficulté le mourant. L'agonie fut très brève, son trépas léger et serein. Avec lui, à 36 ans, était retiré de la vigne du Seigneur un parmi les plus grands apôtres du Christ et de l'Évangile. Le corps de notre saint fut transporté, comme il l'avait demandé, à la petite église de Sainte-Marie. Toute la ville participa à ses funérailles. Le soir même, sur sa tombe, fleurirent les miracles. La renommée brilla comme l'éclair, et les foules confluèrent de toutes parts vers Padoue. Les autorités de l'église s'occupèrent aussitôt de cet événement. Entre autres, l'évêque de Padoue, Jacques de Conrad, jusqu'au pape Grégoire IX, l'un et l'autre grands amis et grands admirateurs du saint. Le procès diocésain et le procès apostolique furent menés à terme en peu de temps. Un an n'était pas encore écoulé de la mort de notre grand apôtre et le pape, le 30 mai 1232, dans le dôme de Spoleto, décrétait les honneurs des autels à Antoine de Padoue. Les confrères du saint, aidés et encouragés par les habitants de Padoue et par tous les pèlerins, entreprirent la construction de la magnifique basilique où posait dignement la dépouille mortelle de saint Antoine. En 1263, finalement, sa tombe fut transportée dans l'église nouvelle à la présence de saint Bonaventure. À l'ouverture du cercueil, la langue de notre saint fut découverte encore intacte. Le culte et la dévotion se propagèrent encore plus. Ce fut un culte mondial qui franchit aussi les frontières de l'Église catholique. Il n'y a pas de pays de nos jours qui ne la connaisse. Il n'y a pas de croyants qui ne le vénère. Sur tous descend sa prière d'intercession et le réconfort de la grâce et la bénédiction divine. Pour conclure, je vous propose un passage de la parole de Dieu qui s'applique à saint Antoine, si riche en sagesse qu'il en remplit de nombreuses âmes. J'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas mise en comparaison avec les pierres précieuses. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable, et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Je l'ai aimée plus que la santé et que la beauté. Je l'ai choisie de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains une richesse incalculable. Que Dieu m'accorde d'en parler à son gré et d'émettre des pensées dignes de ses dons, puisqu'il est lui-même le guide de la sagesse et qu'il dirige les sages. Nous sommes en effet dans sa main, nous et nos discours, toute notre intelligence et toute notre habileté.
Plus pure que le pur argent et plus précieuse qu'un trésor, tel est le prix de la sagesse, bien plus belle qu'un diamant et que toutes les chaînes d'or.
Sa présence,
à qui recherche sa présence.